La mythologie racontée aux enfants de Jules Raymond Lamé Fleury. Texte lu par Cécile Belluard. L'Olympe gaulois. Il y avait autrefois, disaient les druides à leurs disciples, une fée nommée Corydouenne, c'est-à-dire la fée blanche, qui possédait toutes les sciences et refusait absolument de les communiquer à personne. Cette fée, à qui toutes les merveilles de la création étaient familières et faciles à expliquer, connaissait les propriétés secrètes des 6 plantes sacrées, et un jour, elle mit ces plantes précieuses à bouillir dans une chaudière d'airain, entourée, dit-on, des perles de la mer. Elle avait chargé un nain mystérieux, nommé Guan, de surveiller ce vase lorsque 3 gouttes bouillantes de ce breuvage étaient tombées sur les doigts du nain. Celui-ci porta instinctivement la main à ses lèvres, et à l'instant, il sentit en lui-même qu'il possédait toutes les sciences que Corydouenne avait jusqu'alors réservées pour elle seule. Guyon, qui comprit aussitôt quelle serait la colère de la magicienne lorsqu'elle saurait tous ses secrets devinés, voulut s'y dérober en changeant plusieurs fois de figure. Mais la fée, se mettant à sa poursuite, l'aurait bientôt atteint et réduit en poussière si le nain, espérant lui échapper par sa petitesse, ne se fût enfin métamorphosé en grain de blé. Que fit alors la fée blanche pour se venger de son ennemi qu'elle n'avait pas tardé à découvrir? Elle prit la forme d'une poule noire et, sans donner au nain le temps de se reconnaître, elle saisit le grain de blé qu'elle n'eut pas de peine à avaler. Ce fut là le châtiment infligé à l'indiscrétion de Guyon. Corydouenne avait un fils appelé Taliesin, dont le nom signifiait « franc rayonnant ». Sa mère l'avait doué en naissant de toutes les sciences qu'il communiqua plus tard aux druides, telles que l'écriture runique, l'astronomie, la médecine. Il régnait sur un peuple de fées, de nains, de génies, de magiciens et d'enchanteurs, dont les hommes du chêne enseignaient le culte aux Gaulois, qu'ils admettaient dans leur profonde retraite. La punition du Nain dont le nom voulait dire le père des hommes, pour avoir surpris les secrets de la puissante fée blanche, n'avait pas été de longue durée. Admis bientôt après au nombre des divinités celtiques, il reçut le nom de Teutates et devint l'objet d'un culte sanguinaire et terrible. C'était sur ces autels qu'étaient surtout égorgés et consumés des victimes humaines. Comme le Mercure des Grecs, il avait pour mission de conduire chaque jour aux enfers les âmes des morts. Il était, en outre, le dieu du commerce, et comptait de plus parmi ses attributions la charge de veiller à la sûreté des voyageurs sur les chemins publics. Les Celtes avaient encore un autre dieu auquel ils rendaient un culte moins barbare. C'était le dieu de l'éloquence nommé Ogmius, à qui ils attribuaient l'invention de l'écriture vulgaire, tout à fait différente des caractères runiques uniquement réservés à l'usage des druides. Ils le représentaient sous les figures d'un vieillard, au front chauve, ou dont les cheveux avaient blanchi par les années. Il portait l'arc et la massue d'Hercule, était vêtu comme le dieu de la force d'une magnifique peau de lion. Sa langue laissait échapper une chaîne d'or et d'ambre, du travail le plus délicat, dont une multitude de fils déliés semblait aboutir à une foule d'hommes que la puissance de sa parole tenait enchaînés par l'oreille. Mais de tous les dieux adorés par les peuples celtiques, le plus puissant et le plus redoutable à leurs yeux, c'était Essus, dont le nom signifiait « celui qui inspire l'épouvante ». Il habitait les forêts de chênes qui lui étaient particulièrement consacrées. On le représentait sur la figure d'un jeune homme sans barbe, à demi vêtu, au moment où il venait d'abattre avec une hache une branche de feuillage tombée à ses pieds. Quelquefois aussi, il était figuré comme un vieillard à longue barbe, dont la tête était surmontée de 2 cornes de bœuf, et il recevait alors le nom de Céronus, qui veut dire la foudre. Le taureau lui était consacré, comme au dieu Mithra chez les Perses. Les druides l'invoquaient sous le nom du dieu suprême et inconnu. Ils lui attribuaient l'introduction de l'agriculture dans les Gaules, et c'était de lui que les Cimbris prétendaient avoir appris cet art utile. C'était ce dieu qui inspirait aux Gaulois le mépris de la mort, poussé quelquefois jusqu'à la furie lorsqu'ils allaient à la guerre. Il le surnommait le guerrier aux cheveux d'or. Le dieu de la foudre était honoré sous le nom de Taranis, qui signifie encore aujourd'hui en langue bretonne éclair au tonnerre. Le soleil, comme l'Apollon des Grecs adorait sous le nom antique de Bâle, Bel ou Bélus, était pour les Gaulois le symbole de la fécondité de la terre, des merveilles, de la nature, de la lumière surtout, sans lesquelles nous ne pourrions admirer les bienfaits de la création. La lune, enfin, était invoquée comme la personnification de la nuit, l'image mystérieuse des ténèbres et l'imitation nocturne du soleil. Je n'essaierai pas, mes enfants, de vous expliquer les fables dont vous venez de voir que se formait la mythologie des peuples celtiques. Vous avez compris sans doute qu'avec cette multitude de dieux, de génies, de fées, de nains, de magiciennes, dont ils peuplaient tous les objets qui frappaient le regard, le monde était devenu pour eux une sorte d'emblème mystérieux, sous lequel ils n'adoraient en réalité que les merveilles de la nature. Aussi, après avoir déifié les fleuves, les rivières, les montagnes, les forêts, les tempêtes, le tonnerre, les vents qui soulèvent les flots, ils en étaient venus attribuer à chaque objet distinct une divinité particulière à laquelle ils donnaient un nom différent. Ici, c'était le dieu Vossège qui régnait sur les montagnes des Vosges. Là, le dieu Pénin, à qui étaient dévolues les Alpes Pénines. La divinité à qui appartenaient les forêts des Ardennes, représentées avec les attributs de la Diane chasseresse des Grecs, se nommait Arduine. Enfin, sur les montagnes de l'Auvergne, c'était le génie des Arvernes que l'on invoquait. Il n'y avait pas, jusqu'au nom des villes, qui ne fussent placées sous le patronage de quelque dieu ou de quelque déesse, telles que Nîmes, qui avait son dieu Nemausus, Autun, sa déesse Bibracte, et Besançon, son génie Visontio. Ces divinités inventées par les druides étaient représentées sous diverses figures, dont quelques-unes sont parvenues jusqu'à nous, et personnifient en quelque sorte les croyances de ces temps reculés. Je dois pourtant vous faire remarquer que tout entier à la contemplation des phénomènes naturels, les Gaulois ne se livrèrent au culte des idoles que lorsque les Romains eurent introduit parmi eux les erreurs grossières du paganisme dans lesquelles ils persistèrent jusqu'à ce qu'ils fussent appelés à connaître les bienfaits de la religion chrétienne, sous laquelle s'est formée avec le temps notre grande et glorieuse nation française.